RSR, Michel Masseret.
En ski alpin, la Suisse a décroché ce matin sa première médaille au championnat du monde de Garmisch. Le Neuchâtelois Didier Kuch a terminé deuxième de la descente derrière le Canadien Eric Gay. Le podium est complété par l'Italien Christophe Hinerhofer. Alain Thévaux.
Après trois médailles en chocolat, trois quatrièmes places, la Suisse remporte sa première médaille grâce à Didier Kuch, qui aurait bien sûr préféré la médaille d'or. Le Neuchâtelois ne sera jamais champion du monde de descente, mais sa médaille d'argent aujourd'hui vaut de l'or compte tenu des circonstances sur une piste qui s'est dégradée au fil des concurrents sur une neige molle de printemps. Il faisait 9 degrés sur le bas du tracé. Didier Kuch a été battu par le Canadien Eric Gay, qui signe à 29 ans le plus beau succès de sa carrière. Le Neuchâtelois a concédé en retard de 32 centièmes. Le podium est complété par le champion du monde de Super G, l'Italien Christophe Hinerhofer, qui décroche à Garmisch sa deuxième médaille. Quant aux autres Suisses, Beat Feuth s'est classé 9e à 2 secondes 06 d'Eric Gay. Ambrosi Hoffmann est 10e et Sylvain Zurbriggen 12e.
Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés ce matin dans le centre d'Alger, bloqués par un imposant dispositif policier pour tenter d'empêcher la manifestation interdite par les autorités. Toutes les rues menant à la place du 1er mai étaient bloquées par une véritable armada policière. Plusieurs milliers de manifestants sont tout de même parvenus à passer, scandant des slogans dont « Bouteflika dehors » ou « Non à l'état policier ». Au lendemain du départ du président Hosni Moubarak, des milliers d'Égyptiens continuent de célébrer leur nouvelle liberté en espérant une transition vers une Égypte démocratique. Quelques milliers de personnes euphoriques sont encore rassemblées sur la place Tahrir, au Caire, épicentre de la révolte lancée le 25 janvier. L'armée commence cependant à enlever les barricades et barbeler autour de la place. Le père des jumelles de Saint-Sulpice, qui s'est suicidé dans le sud de l'Italie, a probablement fait étape dans le nord de la Corse, où sa voiture aurait été aperçue. La police mène des recherches dans une zone balnéaire proche de Macinaggio. Les enquêteurs ont fait du porte-à-porte auprès des habitants avec les photos des deux fillettes, mais sans résultat. Deux journaux suisses, Le Temps et le Neue Zürcher Zeitung, ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient obtenu de Wikileaks des milliers de câbles diplomatiques concernant la Confédération et qu'ils les publieraient lundi. Le Temps précise à la une qu'il s'agit de 5814 documents. Cet après-midi, les voiles nuageux s'intensifieront. Le thermomètre grimpera jusqu'à 9 à 13 degrés au maximum en pleine. Cette nuit, une perturbation traversera notre pays. Elle pourrait déposer quelques gouttes au nord des Alpes en seconde partie de nuit. Demain matin, les nuages seront encore de la partie.
Infotrafic RSR.
Le trafic est fluide en Suisse romande. En Suisse alémanique, sur l'autoroute Zurich-Berne, un accident entraîne d'importants ralentissements entre les jonctions de Krickstetten et de Kirchberg en direction de Berne.
Après nous avoir fait vibrer à Kitzbühel, quels seront les résultats de l'équipe suisse de ski aux mondiaux de Garmisch-Partenkirchen? Retrouvez les reflets, les résultats, les analyses et les débats de nos journalistes sportifs dans Sport Première. L'évolution de l'équipe suisse de ski, c'est tous les samedis à 19h dans Sport Première. Avec Audi Quattro, audi.ch.
Les hommes et les femmes, mode d'emploi avec Femina.
Les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
De plus en plus, mais peut-être en a-t-il toujours été ainsi, des prêtres se retrouvent écartelés entre leur engagement religieux et le désir d'aimer une femme et d'avoir une famille. Contraints à la clandestinité sur le plan conjugal, ils sont nombreux à mener une double vie. Combien sont-ils exactement en Suisse? Difficile à dire, mais suffisamment en tout cas pour que certaines compagnes de prêtres aient créé une association pour soutenir ces femmes qui n'ont aucun statut. Fondée sur les témoignages de prêtres et de leurs compagnes, Jean Chollet a écrit une pièce de théâtre qu'il a mise en scène. Elle sera à l'affiche de l'espace culturel des Terreaux à Lausanne les 17, 18 et 20 février prochains. On en reparlera évidemment abondamment dans cette émission. À la technique, c'est Frédéric Koller. Les musiques sont choisies par Nathalie Schauenberg. Bonjour à tous. Et bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Peut-être d'abord m'adresser à vous, Nathalie Pfeiffer, pour nous parler de cette pièce, puisque c'est quand même elle qui pose le cadre de notre échange. Comment est-ce que vous avez rencontré, vous, ce thème avec Jean Cholet? Vous connaissez Jean Cholet en tant que comédienne lausannoise?
Oui, je connais Jean Cholet. C'est vrai que la compagnie dont je fais partie, la compagnie Paradoxe, estime, c'est l'un de nos buts, disons, d'être la voix pour d'autres personnes. Je pense que les comédiens sont des médias, tout comme vous, et qu'on est là pour donner la parole à des personnages, mais ces personnages parlent de choses bien réelles. Et c'est quelque chose que je partage, je pense, avec Jean Cholet. Donc, il nous a écrit une pièce basée sur des témoignages de femmes de prêtres et qui donne surtout la parole aux femmes. Trois personnages dans cette pièce. Un prêtre et son assistante de cure dans la petite ville de Limoux, en France. Et puis, l'arrivée d'une jeune pianiste parisienne, Chloé, qui va bouleverser la vie de la cure parce qu'elle est amoureuse d'un prêtre. Voilà.
Alors voilà, pour le cadre et pour le thème de la pièce, je voudrais aussi tout de suite présenter Gabriella Friedli. Vous êtes présidente de l'association des compagnes de prêtres, association qui s'appelle
Zofra. Le ZE, c'est pour célibat en allemand, et puis Fra, c'est une abréviation pour Frauen.
Alors, vous avez fondé cette association il y a 10 ans, mais vous vous occupez d'accompagner des femmes de prêtres depuis presque 20 ans. D'accord. On va revenir évidemment sur tout cela. Et puis, à vos côtés, votre époux, Richard Friedli, vous êtes professeur en sociologie des religions. Vous avez été prêtre pendant à peu près 25 ans, c'est bien ça?
Oui. J'ai suivi donc la filière tout à fait normale. J'étais le fils aîné d'une famille de 5 enfants. Et puis, c'était la coutume dans les campagnes soleroises d'où je viens que l'aîné entre dans les ordres. Et puis, j'ai été donc accompagné, soutenu par le curé du village, qui m'a entraîné au latin, qui m'a préparé pour aller après au collège. Et donc, j'ai suivi tout à fait la voie normale dans la campagne de ce moment-là, dans les années 50, vers le sacerdoce.
Alors, vous dites la voie normale au sens de la norme. Mais en fait, est-ce que pour vous, c'était une chance ou au fond, c'était pas de chance d'être l'aîné d'une famille qui allait devoir... au fond, entrer dans le désir de sa famille.
Donc, c'est très, très difficile maintenant, dans la rétrospective, de voir que c'était le conditionnement familial, la pression de du curé, l'honneur à faire entrer dans le village et dans la famille, mes propres intérêts intellectuels ou de formation. Je viens d'une famille pauvre, donc c'était pas possible que je puisse aller à l'école, au collège, normalement. Et donc c'est avec l'aide de, surtout donc de la paroisse, j'étais orienté vers un collège en Suisse centrale.
Et grâce à ça, vous avez pu faire des études et faire une brillante carrière d'universitaire.
Oui, donc j'ai pu suivre toute la formation et bien soutenu aussi par l'ordre. Après, quand je suis entré dans l'ordre des Dominicains, j'étais soutenu, porté vers tous mes intérêts au fond de la société, de foi et société, toutes ces questions. Et donc, j'étais absolument bien accompagné. J'ai pu faire sur le terrain très vite aussi des expériences intéressantes en Afrique centrale. J'ai travaillé au Rwanda et au Zaïre. Et donc, j'ai pu suivre assez normalement de nouveau de tout le déploiement personnel.
Et ça a duré pendant 25 ans, tout ça?
Oui, donc il y a eu, après j'entrais dans la carrière universitaire à Fribourg. J'étais responsable d'un couvent de formation.
En plus, vous avez des responsabilités pédagogiques importantes.
Oui, donc c'est ça, peut-être on en discutera.
Oui, bien sûr,
c'est
on
un
en
problème
parlait, votre situation.
Que très vite, nous avons des responsabilités très poussées au niveau de la formation et de management, je dirais, la gestion d'une maison d'une trentaine d'adultes. Mal. Donc, de gérer cela à côté de l'université, ça faisait tout un ensemble de renommée publique, si vous voulez, mais en même temps en privé des problèmes. Et c'est là que
voilà, parce qu'en fait, vous êtes là en tant que couple, évidemment, et votre témoignage est extrêmement précieux. Je voudrais revenir quand même d'abord à la pièce, hein, Nathalie Pfeiffer. Donc cette pièce met en scène trois personnages, un curé, deux femmes, l'une, et l'assistante, vous le disiez tout à l'heure, l'accompagne. Est-ce que la situation que décrit cette pièce, et que Jean Cholet, évidemment, a mise en scène, montre que la situation a évolué? Parce qu'avant, vous savez, on disait, c'était assez horrible d'ailleurs, la bonne du curé. Puis après, on les appelle aujourd'hui les assistantes pastorales, en quelque sorte, ou du curé. Mais au fond, la situation est la même sur le fond. C'est-à-dire, ce sont des femmes cachées. Que dit la pièce de tout cela ?
Moi, je pense qu'au fond, la situation est la même. Par contre, peut-être que l'époque a un petit peu changé quand même. C'est-à-dire que j'imagine que dans la société, une femme qui n'a pas forcément d'enfant ou qui a un enfant qui n'a pas de père est peut-être moins mal jugée aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Ça, c'est possible. Et puis, une femme a le droit de rester célibataire, enfin, etc. Maintenant, il y a d'autres situations où les femmes doivent vivre cachées. Quand on est la maîtresse d'un homme politique ou d'un homme marié, enfin. Donc, mais sur le fond, la solitude de ces femmes est le sentiment de gaspiller leur vie. Et la question qu'elles peuvent éventuellement se poser un jour, à savoir, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quelle est la valeur d'un secret? Ou quel est le malheur que peut créer un secret? Est-ce que ça ne concerne que moi? Est-ce que ça concerne d'autres? Ça, ce sont des questions, je pense, qui restent exactement les mêmes.
Vous êtes d'accord, Gabriella Friedli?
Absolument, absolument.
Et à travers ça, c'est tous les témoignages de femmes que vous accompagnez, mais votre propre témoignage.
Oui, je peux confirmer ça. Je peux confirmer de moi-même, mais seulement pour dire, même si la situation des femmes aujourd'hui a beaucoup évolué, dans le sens qu'aujourd'hui une femme qui a une profession, elle a un salaire, elle peut finalement peut-être vivre seule avec les enfants. Là, économiquement, il y a beaucoup moins de problèmes, mais sur le fond, les questions de culpabilité, le sentiment d'avoir fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, ou bien la solitude, ça, aujourd'hui, c'est absolument la même que dans le temps.
Dans votre situation, vous vous êtes rencontrés à quel moment du parcours de Richard, votre époux, aujourd'hui?
Moi, j'avais 22 ans. J'étais très jeune. Une fille de la campagne aussi, une fille un peu paumée, j'étais mal dans ma peau, j'avais juste terminé une formation que j'ai dû faire, même si c'était pas mon choix, mes parents trouvaient que moi je voulais devenir institutrice, et puis pour mes parents c'était clair que la formation c'est pour les garçons et puis pas pour les filles, et puis vous allez en tout cas vous marier. Alors, prends quelque chose d'autre. Et puis,
Donc, un moment de fragilité.
C'était vraiment un moment où j'allais très, très mal. Physiquement, psychiquement, je ne voyais pas dans quelle direction je voulais aller. Mais j'avais une maîtrise dans ma poche, mais qui ne me disait absolument rien. Après tous les efforts, j'étais fatiguée. Et puis, je me retrouvais dans un couvent qui était dirigé par une amie de la femme de mon parrain. C'était des liens familiales. Et puis, ils m'ont dit, viens ici, tu peux faire des vacances, tu peux te reposer un peu pour retomber sur les pieds. Et puis, dans ce couvent-là, à l'époque-là, il y avait un jeune dominicain qui donnait des cours aux sœurs. Et puis, il y avait une des sœurs qui m'a dit, mais écoute, ça serait peut-être bien si tu pourrais discuter avec quelqu'un qui peut t'accompagner un petit bout dans ta vie.
Qui peut t'écouter.
Ouais.
Et donc, c'est ce qui s'est passé. Vous vous êtes rencontrés comme ça. Ce que vous racontez, ce que dit aussi la pièce, et ce que disent les commentaires, c'est que c'est souvent dans le cadre de l'Église, mais pas seulement, que naît une amitié, souvent, puisqu'il y a un interdit d'emblée, j'imagine, hein, pour autre chose. Donc, il y a une amitié, il y a des affinités. Et puis le cœur étant ce qu'il est, un jour on découvre que les affinités s'affinent, si j'ose dire. C'est ça qui s'est passé.
Exactement. Et puis au moment où on se rend compte, c'est trop tard. Ouais. C'est déjà fait. Et puis,
Donc en même temps, vous vous êtes trouvé face à l'interdit et en même temps avec la force de quelque chose qui vivait en vous, c'est ça?
Ouais.
Comment vous avez... la rétrospective, je dirais, on était On a parlé de la formation, on était très mal formés, pas uniquement pour la question de gestion d'une entreprise qu'on peut appeler le couvent, mais aussi dans l'accompagnement psychologique ou dans l'accompagnement des situations de détresse. Nous n'avons pas la professionnalisation qu'on demande actuellement et qui est absolument nécessaire, de sorte que psychologiquement, nous étions très vite dans un imbroglio où actuellement, je dirais professionnellement, on aurait dû gérer autrement cette phase-là.
Mais quand vous dites on manquait de formation, ça aurait changé quelque chose d'avoir une connaissance psychologique plus poussée à votre élan? Parce qu'au fond, il s'agit d'un élan et on sait par définition qu'un élan du cœur ne se commande pas. Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré dans votre situation?
Disons ça, c'était en 74, 72, 73. Oui. Là, on n'était pas du tout encore au niveau, disons.
Bien sûr, de la relation amoureuse.
Donc, j'étais attiré, j'étais peut-être flatté, mais je ne pouvais pas m'analyser comme je le ferais maintenant au niveau des compétences, au niveau des types d'intervention, au niveau de ma propre psychologie. Là, je pense qu'on était très mal équipés pour là. J'étais invité d'écouter et puis j'étais, au fond, pas uniquement à l'écoute.
On va revenir sur tout cela. Je reçois cet après-midi Nathalie Pfeiffer. Vous êtes comédienne et vous jouez, vous interprétez le rôle d'une femme, justement, qui est la compagne d'un prêtre dans cette pièce de théâtre qui s'appelle Femme de prêtre et qui sera jouée les 17, 18 et 20 février prochains à la salle des terreaux à Lausanne. Je reçois aussi Gabriella Friedli et Richard Friedli. Ils sont un couple qui s'est formé au cœur comme ça d'une problématique, puisque M. Friedli était prêtre.
Nous étions deux. Nous étions doux. Nous étions double. Nous étions Dieu. We'll be right back.
Cette chanson a été interprétée par Nicolas Comment et elle s'appelle « Nous étions Dieu ». Voilà, nous revenons à ce thème de femme de prêtre. Comment ça se déroule dans la pièce, Nathalie, par rapport à ce qui vient d'être dit là? Là, c'est leur vraie vie qu'ils sont en train de nous raconter. J'apprécie beaucoup d'ailleurs qu'ils acceptent de faire ce témoignage. C'est peut-être pas si confortable que ça. Quoique, non? Comment vous vous sentez, Gabriella Friedli?
Pas encore vraiment bien.
Pas encore vraiment bien. Parce que ce sont des choses très secrètes et que vous avez tenues secrètes longtemps.
Oui. C'est quelque chose qu'on ne parle pas facilement.
Comment vous avez traité ça dans la pièce? Comment vous l'avez interprété, vous? Cette double contrainte, ce secret obligatoire et en même temps cette envie d'exister?
Bon, alors la pièce, bien sûr, il y a une situation dans le temps, hein, dans le temps par rapport à la vie des personnages. Donc, dans la pièce, mon personnage qui est Madeleine vit depuis presque 20 ans avec le prêtre, mais toujours dans le secret. Donc, lui, il est en fonction et elle est assistante de cure. Donc, la seule réponse qu'ils ont trouvée dans un premier temps à leur problème, c'est le quotidien et le secret, qui, jusqu'au moment où débute la pièce, a été vivable. Et rien ne dit qu'ils sont malheureux au début de la pièce, en tout cas.
Même s'ils vivent des parenthèses.
Même s'ils vivent des doutes. Voilà, ils en parlent d'ailleurs à la fin de la pièce un petit peu. Mais tout ça est bouleversé. Il y a une espèce de catalyseur qui arrive avec ce personnage de Chloé, qui est beaucoup plus jeune, qui vit elle aussi quelque chose avec un prêtre, mais d'une manière totalement différente, et qui rentre un peu dans le cadre, hein, de par sa jeunesse, qui pose des questions, qui rue dans les branches. Car à un moment donné, elle parle avec Madeleine, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es la bonne du curé? C'est nul, moi je veux pas vivre comme ça, ça va pas ?» Et du coup, alors effectivement, il y a toute une remontée qui se fait chez Madeleine et partant de là, chez ce pauvre prêtre, et qui doit lui aussi répondre à des questions. Parce qu'en fait, le secret, ça marche pas. Ça marche pas du tout.
Comment ça a marché pour vous, le secret, Gabriella Friedli? Parce qu'en fait, votre histoire ressemble un peu à ce que raconte Nathalie.
Il y a des parallèles là-dedans qui m'ont beaucoup parlé.
Oui.
Pour cette clandestinité, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre dans le quotidien. Nous, on a eu la chance de pouvoir travailler ensemble à l'université. On était beaucoup ensemble déjà professionnellement. Vraiment vivre, on pouvait pendant les vacances à l'extérieur de la Suisse, loin d'ici. On n'allait pas au même moment à la gare. Il y a un qui prenait un train, l'autre prenait l'autre. Et puis, on se retrouvait quelque part pour que personne aurait pu l'occasion de mettre quelque chose ensemble qu'on n'aurait pas dû mettre ensemble, mais qui évidemment pour nous c'était clair. On met en place toute une stratégie. Pour que ça soit pas. Et puis le fait que Richard il avait eu énormément d'engagement dans la maison, à l'université, lui il était toujours pris. Et puis moi, au fond, j'attendais énormément.
Oui.
J'attendais énormément.
Une des grandes spécialités féminines.
Oui, c'était quand lui, il avait le temps, on pouvait se voir. Quand il n'avait pas le temps, on ne pouvait pas se voir. Alors pour moi, c'était souvent... J'ai pu partager beaucoup de choses parce que je voyais comme il travaillait. Je savais qu'il va rencontrer, pourquoi il est loin, tout ça. Ça, c'était tout à fait clair. Et puis ça m'aidait aussi à supporter la situation. Mais c'était quand même... Pour beaucoup, beaucoup de situations, c'était attendre. Jusqu'à lui, il avait un moment, quand il revenait, il était fatigué comme tout. Et puis, on avait tout juste le temps pour remonter un peu, pour se ressourcer un petit peu. Et puis, il repartait de nouveau.
Ouais. Et en fait, vous avez eu des moments, j'imagine, de révolte, des moments de doute. Vous avez même essayé de rompre plusieurs fois. Richard Friedli, c'était le cas. Vous avez lutté. Il y a eu des moments où vous avez essayé d'échapper au fond à ce destin.
Donc nous étions dans les différents réseaux professionnels ou aussi dominicaines, parce que Gabrielle était présente à la paroisse, réfléchissait avec, connaissait les familles qui venaient. Donc il y avait encore là ce réseau qui tenait assez bien. Donc c'était peut-être sur une fausse étiquette. mais la présence était là, disons, la,
vous
la collaboration
donc,
était là.
Voilà, vous pouviez quand même partager des choses.
Oui, comme à l'université, oui. L'étiquette officielle, c'est secrétaire, bien qu'il y a des connotations, des consonances pour nous qui étaient différentes. Mais Gabriel pouvait accepter le projet, soit à l'université, soit à l'intérieur du couvent. Et donc, ça faisait un autre type, au fond, de... C'est une semi-secret.
Mais les gens le savaient ? Et vos instances supérieures l'ont
non.
su ?
Non.
Vous avez vraiment réussi à garder le secret ?
Il y avait très, très peu. Il y avait ma sœur qui savait, il y avait la sœur de Richard qui était au courant depuis
donc,
assez vite.
Vous mais le cachiez même le reste, à vos familles ?
Oui, longtemps, très longtemps. Oui.
Donc, c'est de nouveau le milieu rural dont je parlais, oui. campagnarde, villageoise, qui faisait que c'était... c'était impossible d'en parler aussi pour mes frères et sœurs, sauf Angela, parce que c'était le déshonneur, c'était tout le prestige social qui s'écroule.
Mais pourquoi, Richard Fréglé, vous avez continué à rester prêtre dans ces conditions ? Qu'est-ce qui vous tenait, vous ?
Donc, c'était... Je ne crois pas que c'était uniquement une invention encore là, même si je regarde maintenant très critiquement, une réelle responsabilité pour... Dans ce couvent, nous étions au fond trois générations ensemble. Hein. Vous avez les jeunes, 19-20 ans, novices à la formation, vous avez la couche intermédiaire en pleine activité, et puis vous avez les confrères qui avaient 70, 75, 80 ans. Donc on était les trois générations ensemble, et une grande projection au fond de confiance dans un jeune prieur qui avait un réel leadership, je crois, et qui faisait que... laisser s'écrouler tout cet ensemble universitaire ou bien dans le cadre de ce couvent, qui n'est pas le cadre paroissial qui est dans le théâtre.
Hein,
c'est un autre contexte.
Du coup, mission vous paraissait plus importante que l'alignement par rapport à vos propres engagements personnels.
Donc ça, c'était au fond l'argumentaire. Nous avons beaucoup parlé de ça.
Ouais.
Et puis, Gabriela pouvait, surtout au niveau, je crois, du couvent et de l'UNI, comme secrétaire qui accompagne les étudiants, et puis au couvent qui connaît au fond ses familles, qui connaît les confrères. Et puis là, c'était plus facile de ratifier au fond une telle argumentation que j'avais. Maintenant, est-ce que c'était une pseudo-argumentation ou réalité ? Ça c'est difficile à décortiquer, c'est psychanalytique.
Quand même, chaque fois quand on partait en vacances, quand on avait un moment où on était vraiment bien, une ou deux semaines... Avant qu'on rentrait à la maison, chaque fois c'était clair. Maintenant, il va vraiment faire quelque chose. Ça peut pas continuer comme ça. C'est trop lourd. On a même parlé d'avoir des enfants. Et puis,
vous avez eu un fils.
Oui, on a un fils. Mais on a même parlé de encore d'autres enfants. Ouais. Mais quand on revenait sur le terrain ici en Suisse, je crois une demi-heure après tout ça, c'était loin parce que il y avait le couvent, il y avait l'UNI, il y avait tout qui reprenait.
Et comment vous avez fait ?
Et puis nous, on vivait des vacances qu'on avait ensemble.
Ben oui, c'était des parenthèses en fait.
C'était pas des parenthèses.
Mais alors comment vous avez fait pour rester ? Parce qu'à un moment, est-ce que vous avez eu envie de...
Moi, je suis pas seulement restée. Hein. J'ai quand même plusieurs fois j'ai essayé de changer quelque chose parce que j'arrivais plus à supporter.
Ouais.
Comme Richard dit, j'ai bien compris tous ces engagements, tout ça, mais c'était toujours, je me sentais tellement petit à côté. Puis je faisais avec. Et puis, avec le temps, ça a aussi changé un peu. J'ai vu que professionnellement, j'arrivais à maîtriser les choses, je me sentais plus sûre. Et puis, j'ai aussi commencé à exiger. Et puis, dès que j'exigeais quelque chose, on avait toujours des conflits parce que ça allait toujours contre le statut. Et puis, effectivement, on s'est séparés plusieurs fois pour plusieurs mois ou plusieurs semaines. Mais chaque séparation nous a...
renforcé le lien.
Oui, on n'arrivait pas à vivre l'un sans l'autre. Et puis quand on était ensemble, on souffrait aussi.
Bah oui, ni sans toi, ni avec toi, en fait. Oui,
quelque
salide.
Chose comme ça, ouais.
Nathalie Pfeiffer, par rapport à tout ce que vous interprétez, vous... Parce que vous jouez cette femme dans la pièce.
Oui, c'est exactement ce qui se passe dans la pièce. Je quitte à un moment donné mon prêtre pendant un mois pour réfléchir, puis je reviens, et puis je lui explique pourquoi ça va pas continuer comme ça, puis ça continue quand même, enfin. Mais effectivement, on s'est posé la question quand on travaillait sur la pièce. Bon, on a lu des témoignages, on a beaucoup parlé entre nous, hein. C'était curieux de voir que les femmes acceptaient si facilement la situation de leur conjoint comme non négociable, enfin.
Quelque part, c'est un peu comme si, pardon Richard Friedli, mais moi j'ai quand même envie de dire, on entend un peu, écoute, c'est à prendre ou à laisser, quoi. Si tu me veux, il y a le paquet cadeau. Et les femmes rentrent beaucoup là-dedans, mais pas que dans votre situation.
Pas que dans cette situation.
Attention, il y a beaucoup à dire hein, sur ce que les femmes sont capables d'accepter comme forme. Moi, j'ai presque envie de dire, il y a une forme d'abus quand même de cette dépendance, besoin de l'amour et besoin de donner-recevoir.
En tout cas, beaucoup de femmes semblent dire, mais je ne peux pas lui demander ça.
Je ne peux pas lui demander ce sacrifice.
Oui. Je peux faire beaucoup de choses, je peux partir, effectivement.
Oui.
Mais je n'ai pas le droit de lui demander ça. C'est sa vie, ce métier. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un ça.
Oui, et puis si on a été instruit que vraiment romain, catholique, pendant toute la jeunesse, on connaît cette valeur d'un prêtre. Hein. Mm. On sait que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est seulement par après qu'on constate que c'est un homme comme un autre. Mais il y a tout ce paquet qui va avec chez lui. Et puis de lui demander de faire ce sacrifice. Et puis par après, il y a quoi?
Ouais.
J'avais une peur... S'il dit oui à moi, il doit laisser toutes les autres choses qu'il aime tellement, où il a tellement de talent, une capacité comme pas beaucoup d'autres. Moi, je voyais ça.
Bien sûr.
J'avais vraiment une peur bleue de l'avoir après tout pour moi-même. Et puis, qu'est-ce que je peux lui offrir?
Triste d'un certain sacrifice, c'est ça, Richard Friedli.
À ce moment, on ne savait pas encore comment tout cela va professionnellement évoluer institutionnellement. Mais pour revenir rapidement encore à la pièce, je crois que la pièce indique très très bien aussi un aspect générationnel ou intergénérationnel entre Madeleine et Chloé.
C'est d'autres générations différentes.
Et je crois ce que Gabriela observe aussi dans l'évolution de la Tsefra, c'est que les femmes actuelles réagissent tout autrement que les femmes autour de 50 ans, de la génération, je crois.
Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire, Richard Friedli? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'entre pas en matière? Elle ne tombe pas amoureuse?
Non, elles
exigent d'autres choses.
Puisqu'elles sont aussi autrement dans la société.
Oui.
Autrement, vous avez parlé tout à fait au début des familles recomposées, des familles monoparentales, mères célibataires, tout cet ensemble a évolué énormément dans la société actuellement. Donc, et les femmes qui sont maintenant concernées par cette relation amoureuse avec un prêtre gèrent tout autrement leur propre psychologie et puis l'institution et puis la pression familiale est moins grande. Souvent, ce sont des femmes de la ville et pas de la campagne. Et donc, la mentalité urbaine intervient. Je crois que ça fait qu'il y a actuellement une autre manière de gérer.
Mais elles veulent être entendues maintenant. Elles aimeraient que l'Église réponde, non?
Oui, ça on aimerait en tout cas. Mais seulement pour vite revenir, les jeunes femmes aujourd'hui, souvent ils ont une bonne formation.
Oui.
Ils gagnent leur vie. Par exemple, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de dire à un couple, à un prêtre et jeune femme bien formée, ils voient leur situation et puis c'est elle qui peut même mettre à disposition l'argent pour que lui fasse encore une autre.
Et faire un relais, exactement.
Il peut faire une autre formation et puis entrer dans une autre filière. Les femmes de mon époque, ils n'ont pas eu cette chance. Moi, j'ai déjà une formation qui était basique. Ça n'aurait jamais été possible que moi, je pourrais t'offrir encore une autre formation.
Je crois que c'est un élément important qu'on apporte maintenant, puisque j'ai parlé de la sociologie. Je crois le facteur économique. Au moment que le célibat était introduit comme au XIIIe, XIVe siècle, comme une norme. C'était lié à des questions d'héritage, à des questions d'économie. Et actuellement, la question économique se pose tout autrement, oui, à cause de toute notre formation, de notre contexte. Et je crois que ça fait que aussi la question du célibat actuellement est abordée d'une façon tout autre que la tradition.
On va évidemment aborder ça un peu plus longuement, mais on va d'abord faire une pause et écouter une chanson. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. So carelessly left. There's a limit to your care.
Radio Suisse Romande, la première, les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Infotrafic RSR.
Un accident s'est produit sur l'axe Lucerne-Saint-Gothard et un embouteillage s'est formé entre la jonction de Lucerne-Kriens et le tunnel Spire, car la voie de gauche est bloquée en direction du Gothard. Cette situation devrait se prolonger jusque vers 15h. Et sur l'autoroute Zurich-Berne, l'accident est à présent dégagé, mais on roule toujours au pas entre Krickstetten et Kirchberg en direction de Berne.
rappelle que je reçois cet après-midi Nathalie Pfeiffer. Vous êtes comédienne et vous interprétez le rôle d'une femme, d'une compagne de prêtre dans cette pièce qui porte ce titre, Femme de prêtre. Une pièce écrite et réalisée par Jean Cholet pour le théâtre, qui se déroulera
à l'espace culturel des Terreaux à Lausanne, et puis ensuite à Nyon, au théâtre du Funambule et au théâtre de l'Oxymore à Cuy.
Voilà, alors les 17, 18 et 20 février.
À Lausanne.
À Lausanne, voilà. Mmh. Et donc, aussi à ce micro, Gabriella et Richard Friedley, vous êtes un couple qui s'est formé, mais toute une partie de votre première période de couple s'est faite dans le secret, puisque vous étiez, Richard Friedley, prêtre et même responsable dans un couvent. Vous étiez chargé d'enseignement à un haut niveau. Et puis, madame, vous avez ensuite, parallèlement au fond à toute cette histoire, créé cette association pour compagne de prêtres. Juste un mot par rapport au célibat. Comment l'Église a réagi quand elle a su, parce que vous avez, je crois, été dénoncée à un moment, vous avez été obligée, ça faisait 20 ans que vous étiez dans le secret, et un jour, quelqu'un vous a dénoncé.
Oui, quelqu'un qui voulait avoir un poste, et puis il n'a pas reçu ce poste, et puis il trouvait que c'était pas normal que Richard, qui vit avec une femme et puis un enfant, peut garder son poste à l'université, et puis lui-même, il ne reçoit pas
un poste. C'est bonne guerre, et donc à un moment, mais alors, c'est en même temps une catastrophe, et peut-être à un moment, une forme de soulagement, j'imagine.
C'était exactement ça. C'était ça. D'abord, c'était une peur bleue. On a pensé que maintenant le monde s'écroule. Et puis en même temps, c'était vraiment un soulagement absolument énorme.
Mais comment a réagi votre hiérarchie? Est-ce que vous avez été blâmée, rejetée, violentée psychologiquement?
Donc ça, c'est plutôt moi qui dois un peu interpréter, comment ça, ou rappeler comment ça s'est passé. Donc j'étais dans la faculté de théologie. Là, on reçoit ce qu'on appelle la mission d'enseigner par Rome. Si vous voulez, pour le dire maintenant rapidement, et quelqu'un qui est dans une situation comme la mienne, qui défroque, comme on dit maintenant.
Ah, c'est comme ça qu'on dit, c'est toujours aussi élégant comme terme.
Et donc, selon le droit canonique et selon la morale ecclésiastique officielle, c'est un renégat, voilà. Donc ça, c'est la ligne officielle. On perdait à tout cas le poste. Et donc, dans une fac de théologie. Et là, il y a deux choses, deux niveaux peut-être qui interviennent pour ce qui concerne ma transition. Au niveau de l'université a, avec l'aide d'autres collègues professeurs, essayé de trouver une issue en instaurant, après des négociations qui duraient 2-3 ans, un poste science des religions et sociologie des religions dans la faculté des lettres. Donc j'étais transvasé, et ça c'est notre chance, par rapport à beaucoup d'autres. Et puis je pouvais absolument me développer, et puis sans tenir compte des limites, peut-être même doctrinaux imposés par. Donc ça c'est. Puis l'autre aspect, c'est donc l'aspect ordre, l'aspect dominicain. Et là, de nouveau, officiellement, c'est clair, quelqu'un qui est dans une situation comme la mienne, il rompt les vœux, les trois vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, et il doit quitter l'ordre, ou bien il est éjecté de l'ordre, donc officiellement. Mais au niveau relationnel, les contacts que j'avais surtout avec les cadres supérieurs, si je peux ainsi dire, donc du fait que j'étais aussi à ce niveau de mes responsabilités, c'était très honnêtement, très franchement, très avec beaucoup de fairness, géré pour trouver la solution.
Ils cherchaient à vous garder quand même.
Ils appréciaient l'enseignant, mais s'il faisait disons une lettre très officielle que c'est prévu par l'institution vaticane, qui m'éjecte, qui m'expulse, qui m'excommunie, qui m'enlève tous les trois à l'intérieur de l'Église, tout cela, il disait je dois t'envoyer une lettre comme ça, mais oublie, ne regarde même pas la lettre,
dois l'envoyer. Quelle contradiction intérieure pour vous, pour Gabriella, pour vos supérieurs, dont certains étaient eux-mêmes coupés en deux. Comment vous regardez ça aujourd'hui? Et comment est-ce que vous mettez ça en perspective par rapport aux vœux que vous avez faits? Comment vous vivez ça? Il y a une forme de dichotomie.
Fatalement, disons, alors je ne l'ai pas vécu comme une déchirure, disons, psychanalytique, si je peux ainsi dire, parce que je pouvais continuer à fonctionner au niveau de ce qui me donnait beaucoup à cœur, je l'ai dit tout à fait au début, société et éthique, société en mutation,
oui,
valeurs,
mais
etc.
Monsieur Friedli, mais c'est ça qui est atroce pour finir. C'est qu'à partir du moment où vous conservez votre image, et je respecte infiniment, évidemment, votre, j'imagine, vous avez été un professeur génial et engagé, mais en vous écoutant comme ça, on se dit, mais alors à quoi se rattache ce vœu? Ces vœux se rattachent à quoi? Puisqu'au fond, au moment d'un choix profond, parce que là il s'agit d'un choix humain profond, tout d'un coup, on fait fi, quoi. On fait fi de tout ça et on dit, écoute, on n'est pas d'accord, mais on continue quand même à... Que vont devenir les jeunes qui arrivent aujourd'hui? Crise de la vocation. Que deviennent ces jeunes à qui on raconte des... Pardonnez-moi, je me dis, mais c'est au fond des choses auxquelles personne ne croit plus. On continue à les engager dans le vœu et personne n'y croit plus.
Ça dépend. Je ne suis plus du tout dedans. Je ne sais pas comment.
Je pousse un peu le bouchon
comment
là.
Les responsables gèrent cette question actuellement. Comment ils traduisent dans un contexte de société totalement changé par rapport au XIIIe siècle, XIVe siècle où les vœux étaient formulés, enfin étaient institutionnalisés. Moi, je pense que sans la pression qui vient socialement, quelqu'un peut opter pour ça, un jeune, encore aujourd'hui. C'est-à-dire, disponibilité, donc pauvreté, gérer ses options à l'intérieur d'un ensemble, obéissance, gérer la sexualité, l'érotique, lucidement. Je crois que quelqu'un qui est bien formé peut le faire, ça reste une option.
Est-ce qu'ils sont accompagnés sur le plan psychologique pour savoir ce à quoi ils s'engagent?
Pour évaluer la qualité, disons, aussi là, c'est psychanalytique. Disons,
parce que j'allais dire, il faut bien se connaître, hein, Monsieur Friedli, pour faire un tel vœu. Ouais.
Et
il
donc,
faut
ça,
savoir
c'est
de quoi l'on est capable et quelles sont les priorités de ma vie.
Je dirais actuellement, c'est un des problèmes des accompagnateurs, que souvent, ils ont peut-être une bonne volonté, comme j'avais à ce moment-là, mais qui n'ont pas les outils psychologiques de discernement clair, et même sur eux-mêmes.
Pour soi-même, déjà.
Et donc là, je pense... Nous avons actuellement une institution qui n'est pas du tout au niveau.
Oui. Mais il faut aussi voir combien d'années que tu as eu besoin pour arriver à
clarifier ça.
Vous avez fait après un travail sur vous.
Oui, un travail énorme.
Je reçois cet après-midi Nathalie Pfeiffer. Vous interprétez le rôle d'une femme, justement, qui est la compagne d'un prêtre dans cette pièce de théâtre qui s'appelle « Femme de prêtre » et qui sera jouée les 17, 18 et 20 février prochains à la salle des terreaux à Lausanne. Je reçois aussi Gabriela Friedli et Richard Friedli, qui sont un couple qui s'est formé au cœur comme ça d'une problématique, puisque M. Friedli était prêtre. J'aurais aimé, Nathalie Pfeiffer, quand vous interprétez la femme, la compagne dans cette pièce, la femme du prêtre, qu'est-ce que ça vous évoque d'entendre ce témoignage du vécu, quoi, du concret, par rapport à ce que vous dites dans la pièce?
Oui, alors ça ressemble... Mais la pièce a été basée sur des témoignages.
Bien sûr,
donc,
de cet ordre-là.
Donc, des témoignages, on en a pas mal entendu. Et puis, l'année passée, on a joué à Avignon. On a rencontré l'association Plein Jour, qui est l'association des compagnes de prêtres françaises, et leur présidente, Madame Venturini. Et là encore, on a eu aussi des couples qui sont venus nous voir, parfois extrêmement discrètement, mais on voyait juste une petite main qui se posait sur l'autre main pendant la pièce. Comme là, ça, elle était petite, on voyait ça. Et une femme s'est levée une fois à la fin d'une représentation. Elle était bouleversée. Elle a dit, cette pièce a été écrite avec le sang des femmes. Et elle s'est mise à parler de ce qu'elle avait vécu devant le public, qui était un peu étonné comme ça.
Un peu pris à partie pour finir.
Voilà. Mais bon, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur les revendications féminines, si j'ose dire revendications, parce que ce sont des femmes qui revendiquent très pacifiquement, je veux dire, c'est pas des grandes méchantes, mais elles aimeraient quand même quelque chose. Elles aimeraient d'abord qu'on parle de ce qu'elles vivent, parce qu'il y a vraiment une loi du silence. Et qu'on ne tourne pas trop autour du pot, c'est-à-dire que, bon, il y a l'histoire du prêtre, effectivement, ses vœux, tout ça, comment, voilà. Après, il y a les petites anecdotes, comment ça s'est passé pour moi, pour lui, je ne sais pas quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'avenir? Que répond l'Église catholique quand les femmes italiennes lui écrivent? Il y a une année de ça, ou quelques mois, ou 9 mois, et l'Église dit, ce ne sont que des anecdotes, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des anecdotes personnelles. Et là, ce que disent en tout cas ces femmes françaises que j'ai rencontrées, elles disent c'est pas vrai, c'est pas juste une anecdote personnelle, il y a un problème.
Et elles sont nombreuses.
Du célibat. Et nous aimerions en parler avec l'Église, mais l'Église, alors à ce que je sais, là, ne veut pas en parler.
Ne veut pas parler.
Toujours aujourd'hui.
Toujours aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez en Suisse, voilà, de
nous,
ça
on a eu des contacts. En 96, il y avait une délégation de femmes de la Zofra qui sont allées voir une délégation des évêques suisses. Mmh. On avait discuté ensemble pendant 2 heures et puis ils ont bien écouté, ils ont bien compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais justement, c'était des cas particuliers et puis ce n'est pas si grave. Mais si vous avez un problème, vous pouvez vous adresser à la commission évêque-prêtre qui existe en Suisse. Hein. Et puis, pendant plusieurs années, cette commission était notre intermédiaire. Mmh. On les a rencontrés une fois par année. On a eu des très bons contacts parce que les deux personnes qui étaient là étaient très ouvertes. On a pu vraiment leur dire ce qu'on vit, les problèmes qu'on a et puis ce qu'on aimerait, ce qui change à l'intérieur de l'Église. Il y a, avant l'abolition du célibat, il y a encore plusieurs étapes qu'on pourrait franchir.
Comme quoi, par exemple, un ou deux exemples?
Par exemple, si un prêtre part, ça ne passe pas toujours aussi bien que chez Richard.
Oui. Mm-hmm.
Souvent, ils sont vraiment mis à côté. Mm-hmm. On les re-engage plus à l'intérieur de l'Église, même s'ils auraient encore une formation qui pourrait...
Et les femmes qui ont des enfants?
Par exemple, là, on... Ouais.
Ou là, bien, ça n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de prise
non,
en compte.
Non, pour eux, c'est... Non, ils ne veulent pas. Ils veulent pas en parler.
Ouais.
Et puis on exagère, et puis si jamais ils veulent avoir une liste des noms, et puis tout ça. On a fait une statistique.
Ah, ils veulent une liste des noms
ouais,
en plus.
On a
non
fait...
seulement ils ne vous soutiennent pas, mais en plus ils veulent que vous dénonciez.
On a fait une statistique sur la demande de cette commission ouais. en 2003.
Ouais.
Et puis on a regardé tout le matériel qu'on avait, et puis on a essayé de faire une sorte de statistique qui était pas complète, mais quand même donnait beaucoup d'indications. Et puis, on avait un peu peur que si on donne ce papier aux évêques, ils vont dire, mais on parlait pas. Et puis, on avait parlé à un journaliste qui a fait un article.
Mmh.
Et puis, après, les évêques, ils étaient vraiment pas contents. C'était presque la guerre parce qu'ils disaient que c'est pas vrai, on veut voir des listes et puis seulement si vous
voilà,
nous
si
donnez
vous
les
prouvez,
noms,
on peut rentrer en ouais. matière. C'est
mais
un petit
vous
peu,
exagérez, ça
petit
va
peu
pas.
Piégeant,
et puis on
sûr.
A essayé de leur dire que c'est justement ça qu'on peut pas.
Ouais.
Parce que pour chaque nom, il y a bien des sûr, existences qui sont en jeu et puis ça, on peut pas faire.
Oui, Nathalie.
Mais les chiffres,
c'est peut-être à nous, les citoyens, c'est peut-être, là je m'adresse aux gens qui nous écoutent, aux gens qui viendront au débat du jeudi 17 février après notre pièce. C'est finalement aux croyants de cette communauté, peut-être, de dire, comme vous le disiez tout à l'heure, Roselyne, pour nos jeunes qui vont embrasser la carrière de prêtre, et si on pense que la religion est utile et qu'un prêtre est utile et que j'en ai besoin, eh bien non au mensonge. Mmh. Et pourquoi on leur permet pas de se marier? Parlons-en.
Et en c'est tout cas, en parler.
Si les paroissiens posent des questions à l'Église, peut-être l'Église sera obligée à un moment donné de répondre.
Vous pensez que les gens sont trop passifs? C'est un peu ce que dit
oui,
Nathalie.
Oui, en tout cas.
Peut-être le
oui,
peuple est un peu
cas,
trop passif.
Parce que moi, je pense que les paroissiens pourraient... Ils
oui.
acceptent aujourd'hui beaucoup de ces situations de couple. Ils disent beaucoup
ouais.
mieux avoir un prêtre avec une femme que pas de prêtre. Mmh. Alors, ils acceptent presque ouais. tout. Mais ils n'osent pas, par exemple, engager un ancien prêtre.
Mmh.
Parce que là, il y a tout de suite les conflits. Et puis, l'Église en Suisse se réfère à l'Église universelle. Et puis... Comme ça, ils ne doivent rien faire.
Alors, on arrive déjà à la fin de ce partage. Hein. Je voudrais quand même poser une question, Gabriella.
Oui.
Votre fils, il en pense quoi? Il a 28 ans aujourd'hui. Il tire quelle conclusion de
Alors,
son histoire?
Pour lui, c'est cette église qui traite de cette manière les gens, c'est la merde.
Voilà, c'est ce qu'on dit à 28 ans.
Oui.
Mmh. Richard, quelle est votre réflexion à cette
Donc
étape-là?
Je reviens un peu à ce que...
Rapidement, parce qu'on est à la fin de cette émission.
Madeleine vient de dire, c'est-à-dire...
Nathalie qui joue Madeleine.
Il faut le courage citoyen.
Oui.
Il faut une désobéissance tenue. Et puis il faut des paroisses qui avancent et s'en tenir compte.
Et qui posent des vraies questions.
Surtout en Suisse, on a une chance puisque les paroisses sont de droit public. Et puis les paroisses ont l'argent. Et donc là, il y a un moyen. J'étais président de paroisse après. Donc, et la paroisse savait très bien qui nous sommes. Mais ça ne fait aucun problème. Et je crois que c'est cette base-là qui peut faire bouger.
Mais je ne crois pas qu'on en parle beaucoup. Mmh. On dit beaucoup. Et puis, on demande beaucoup, mais il n'y a pas de réponse.
Et puis, Nathalie, j'aimerais que vous nous donniez rendez-vous, parce que c'est jeudi pour la première. Donc, jeudi 17 février.
Jeudi 17 février, et c'est suivi d'un débat où il y aura des personnes de l'Église catholique, et puis bon, les comédiens, bien sûr. Et moi, je dirais que le message de mon personnage, de Madeleine, ce qu'elle découvre à la fin de la pièce, parce qu'on ne donne pas de réponse, on pose des questions, mais ce que je découvre, moi, c'est que le secret dont je pensais qu'il ne concernait que moi et mon mari, mais moi ou mon conjoint, en fait, il concerne beaucoup de gens. Mmh. Et pour les jeunes, pour la suite, pour les autres, on doit briser le secret.
Mmh. Alors, ça se passe à la salle des terreaux.
Espace culturel des terreaux, jeudi 17 février, femme de prêtre.
Voilà. Et je voudrais quand même dire tout de suite là que vous serez les invités, en tout cas vous, Gabriella Friedli, vous serez les invités de Madeleine Caboche dans Rien n'est joué, le 17 à 10h. Le 17 février, vous êtes dans l'émission Rien n'est joué pour faire un débat. Il y aura un reportage sur la pièce elle-même. Mmh. Et puis, moi, j'ai envie de vous inviter nombreux à aller voir cette pièce. Moi, je trouve que c'est prenant tout ce que vous avez dit. Je vous remercie infiniment aussi pour ce témoignage, Gabriella Friedli, Richard Friedli. Merci et bon vent.
Merci.
Nathalie
Merci
Pfeiffer. Vous si vous souhaitez obtenir un enregistrement de cette émission, vous pouvez dès maintenant téléphoner au 026 323 24 24.
No more sugar left, no more soap to clean my hands with no songs left for the choir. Oh, no more stitches for the dress, no more bread left to bless. I raise my hands to reach the sky. So I left my fate in life, I left my house with an open door, left it like an open sore. I couldn't stop the wind, oh, blow. Sweep to brush away the mud that's stuck upon my shoes. Oh, no brush the fuck around my feet. No pockets full of grain of crumbs. The winner cake, the soft ice. Sweet, no more shimmering stars. No more strings on my guitar.
Les hommes et les femmes, mode d'emploi avec Fémina.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bien sûr une très bonne fin d'après-midi. Vous écoutez la première, il est exactement 14h.